Radio Foot International.
Thomas de Saint-Léger.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le studio de Radio Foot. Au menu ce lundi, un Lyon qui mange tout sur son passage. 4 victoires consécutives pour l'OL sur les talons du PSG en Ligue 1 avant un choc entre les deux équipes dimanche prochain. Au Parc des Princes, c'est le petit prince du parc, justement. Kylian Mbappé a passé ce week-end la barre des 100 buts avec Paris. Est-il pour autant toujours aussi phénoménal? Le débat est sur la table. En Angleterre, c'est sur le trône que s'est assis le Tottenham de José Mourinho. Premier, égalité avec Liverpool. Comment expliquer ce retour au premier plan? On vous dira tout. On vous dira tout aussi sur le dilemme d'Olivier Giroud en forme et peut-être pas encore tout à fait sur le départ de Chelsea. Enfin, on parlera du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Europe. Avec moi aujourd'hui pour parler de tout ça, Bruno Constant. Bonjour Bruno, ça va?
Bonjour, bonjour à tous.
Très bien, très bien.
Comme Xavier Barré.
Enfin salut aussi. Thomas, bonjour à tous, très bien, merci.
Un jour de tirage pour vous, je sais que c'est toujours un moment
j'aime
particulier.
J'aime beaucoup ça, oui, vous savez.
Habib Bey est avec nous aussi, bonjour Habib.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Voilà, vous êtes prêts? Radio Foot, c'est parti. Avant de dérouler ce programme, c'était ce week-end à Rufisque, en banlieue de Dakar, le dernier hommage de la nation sénégalaise à son roc, au premier buteur de l'histoire du pays. En Coupe du Monde, Pape Bouba Diop, récit de Babacar Fall.
Et ils sont tous là aussi, presque, les coéquipiers de Bouba Diop à l'époque en sélection. Aliou Cissé, le capitaine d'alors, Henri Camara, l'éternel copain, inconsolable. Et la Djouf, l'auteur de la passe décisive sur le but de Bouba Diop contre la France. Djouf, chargé par ses camarades de lire l'oraison funèbre.
Nous, la génération 2002 et celles qui ont suivi, saluons la mémoire d'un vrai lion. Monsieur le Président de la République, Papa Bouba Diop, que vous allez décorer à titre posthume, mérite tous les égards de notre nation et de ses dirigeants. Il mérite le repos du guerrier, mais il mérite surtout de ne pas être oublié.
Et on l'oubliera pas, c'est sûr, RFI, Pape Bouba Diop, Habib, vous avez déjà évoqué ici même la mémoire de votre ancien coéquipier. J'imagine qu'entendre ces mots d'Eladji Diouf, de voir qu'une nation jusqu'à son président se rassemble pour un grand joueur de football, c'est quelque chose voilà, de fort pour vous?
Oui, bah c'est même pas dire d'être mérité, c'est surtout que c'est un hommage dignement représenté par le président de la République à l'image de ce qu'était Pape Bouba Diop. Il a mis en quelque sorte le Sénégal sur la carte du monde footballistique ce jour contre la France. C'est une perte énorme pour nous tous, mais pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour tous les gens qui aiment le football. Et c'est bien que justement il y ait une grosse partie de cette génération qui soit à Dakar pour représenter Pape Bouba une dernière fois. Et comme l'a dit Ella, j'espère qu'il sera en quelque sorte l'héritage d'un football qui continue d'avancer et surtout l'héritage d'une personnalité, parce que c'était avant tout un homme fantastique. Et je pense que à l'image de ses funérailles, le Sénégal a très très bien rendu hommage à Pape Bouba.
Pape Bouba Diop qui avait charmé le Sénégal, mais aussi la Première Ligue, la Ligue 1 sous les couleurs de Lens, vice-champion de France en 2002, derrière l'OL. Lyon, on en parle justement aujourd'hui dans Radio Foot, car Lyon, cette saison, à l'écrou.
Ah, c'est un peu dans les talons. Michel, oh oui, Karl. Karl, faut frapper pied gauche. Oh, elle est belle.
Oh, superbe.
Karl, ton coin combi, pied gauche, plein de délais.
Superbe. Allez,
troisième peut-être. Le troisième peut-être.
Oui.
3-0. Karl, ton coin combi, encore une fois impliqué. Le doublé pour le Camerounais. Plus une passe. Il est en feu actuellement. Impliqué sur les 6 derniers buts lyonnais. 3-0.
Et ça s'est fini plutôt sur le score de 3-1 pour l'OL. Vainqueur à Metz hier, 4e victoire consécutive, 10 matchs sans défaite pour ce Lyon et son Lyon camerounais, Karl Toko Ekambi, auteur donc d'un doublé, en grande forme lui aussi. On a l'impression que Lyon, ça y est, que Rudy Garcia en tout cas s'est trouvé, a trouvé son équipe type après quelques tâtonnements en début de saison. Xavier, qu'aujourd'hui il y a un 11 qui se dessine avec en attaque des Kadewere, des Toko Ekambi.
Bah, c'est vrai que le trio d'attaque est très intéressant, hein, Kadewere, Memphis Depay et puis Karl Toko Ekambi. Mais je serais tenté de dire c'est un peu le minimum qu'on attend de la part de Lyon. Il faut rappeler qu'ils ont un effectif pour jouer la Coupe d'Europe et qu'ils ne sont pas européens. et qu'en plus ils ont même plus la Coupe de la Ligue pour faire jouer les remplaçants, donc il y a un effectif pléthorique. C'est presque un problème de riche auquel est confronté Rudy Garcia. D'ailleurs, il l'élude pas dans les interviews. Il faut arriver à maintenir tout le monde sous pression avec une seule compétition toutes les semaines. Donc quand cette équipe lyonnaise se retrouve finalement à sa place, en fait, à la troisième place derrière Lyon, derrière le PSG et Lille, ou au niveau de Lille, on se dit que heureusement qu'ils ont bien réagi après cette saison abrégée qui les a privés de Coupe d'Europe, parce que c'est effectivement, ils devraient être actuellement en train d'enchaîner les matchs tous les trois jours, ce qui n'est pas le cas. Donc avec un seul match par semaine, ils sont au rendez-vous, ils enchaînent les succès, là contre des équipes de deuxième partie de tableau, il faut dire, et c'est pour ça que le match contre le PSG ce week-end va être extrêmement intéressant, parce que là on va vraiment voir quel est leur potentiel.
Et c'est un Lyon assez différent finalement de celui qui avait terminé la saison précédente avec la Ligue des Champions notamment.
Oui, différent peut-être dans l'attitude, différent dans la relation entre les joueurs, parce qu'ils se connaissent un peu plus, parce que je pense qu'il y a aussi un surplus de confiance grâce à ce parcours européen, forcément, ça les a boostés aussi. Et puis moi, j'oublie pas ce qu'a dit Rudy Garcia, on a souvent été sévère avec lui, critique avec lui. Il avait dit à la fin du mercato, voilà, maintenant c'est fini, on va enfin voir le vrai Lyon à partir de maintenant. Et c'est ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est exactement ce qu'il avait prédit. Donc voilà, après je suis d'accord avec Xavier, sur le papier, Lyon doit être dans les trois premiers. Ils ont l'un des meilleurs effectifs avec le PSG et peut-être avec Lille et Marseille en balance. Mais ils sont simplement à leur place, quoi.
À leur place et pas loin d'embêter le PSG, troisième à deux points du leader avant un match qui va valoir cher dimanche prochain. Un match déjà dans les esprits lyonnais, à commencer par l'entraîneur Rudy Garcia.
On va regarder ce qu'ils vont faire surtout en Ligue des Champions d'abord, en tant que résultat bien sûr, mais aussi en tant que composition d'équipe. Et puis on va les étudier encore mieux que ce qu'on sait d'eux ou que ce qu'on voit à la télé. Ce qui est sûr, c'est que grâce à cette victoire, on va pouvoir aller à Paris avec humilité, parce que c'est à Paris, mais avec ambition, parce qu'on voudra faire un résultat, évidemment.
On y croit, Habib Bey, déjà à ce discours de Rudy Garcia, on y va avec humilité, mais il parle aussi d'ambition. On y croit à ce discours et à ce que peut donner l'OL dimanche prochain.
Vu la dynamique du moment, on peut y croire. La problématique, c'est que Rudy Garcia est dans l'incapacité avec les équipes qu'il dirige de gagner les gros matchs. Et ça, c'est une récurrence depuis quelques années. C'est vrai que Lyon est mieux. Ils sont, au vu de l'effectif et au vu de leur qualité, à la bonne place pour l'instant. Ils devraient même être bien mieux. C'est vrai qu'il y a eu ces problèmes de mercato. Je suis encore une fois dans l'attente de voir s'il est capable justement de monter son équipe et de faire en sorte que son équipe soit compétitive sur les gros matchs, parce que on peut pas être exigeant avec le Paris Saint-Germain en disant que le révélateur c'est la Ligue des Champions et ne pas l'être avec Lyon sur la Ligue 1 et sur les gros matchs de Ligue 1, parce qu'ils n'ont pas de compétition européenne. Donc on sera moins clément avec Lyon qu'on peut l'être avec Rennes par exemple, ou avec d'autres équipes qui jouent la Ligue des Champions. Ils ont un effectif XXL avec des joueurs hors normes à l'intérieur de cette équipe. Ils ont énormément investi, il faut pas l'oublier. Lorsqu'on voit aujourd'hui qu'Adewere, ça a été payé très cher en Ligue 2, vous prenez Deschilio, c'est pareil, c'est un joueur qui arrive de la Juve. À partir de là, on est très exigeant avec Rudy Garcia, on est très exigeant avec Lyon, et battre Metz n'est pas forcément une normalité, parce que je n'aime pas la normalité en football, c'est jamais facile de gagner un match de football. Par contre, on les attend forcément sur ce match face au PSG, de voir s'ils sont capables de rivaliser sur 90 minutes, d'imposer quelque chose et de ne pas subir les événements comme ils l'ont fait par le passé. Et c'est là où on pourra dire, enfin, Lyon a passé un cap, parce que pour moi, de ce que je vois là aujourd'hui face à Metz, ils n'ont pas passé un cap. Ils sont à leur niveau, avec un effectif bien supérieur aux autres effectifs de Ligue 1, et je les attends, oui, face au PSG.
La différence par rapport aux années précédentes, c'est que Lyon, comme d'autres équipes, sont assez proches du leader après 13 journées, évidemment. Un PSG qui doit regarder un petit peu derrière aussi. Il y a plusieurs menaces. Non,
c'est parce que le PSG a perdu les deux premiers matchs lors des deux premières journées, parce qu'il leur manquait la moitié, si ce n'est les deux tiers de l'équipe, qu'ils étaient pas du tout préparés, puisque la saison était avancée et eux, ils avaient joué la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, ces deux défaites contre l'OM et à Lens, en fait, vous enlevez ça, le PSG a 7 ou 8 points d'avance sur ses rivaux, déjà, si le score est celui qu'on aurait attendu dans des conditions normales. Donc là, ils ont perdu ces deux premiers matchs, et du coup, les autres sont collés, mais sinon dans un contexte normal, le PSG serait déjà devant plus largement. C'est pour ça que ce match, parce que le rival principal sur le papier du PSG, je crois qu'on est tous d'accord, c'est Lyon. Lille, c'est bien aussi, mais c'est Lyon sur le papier. Or, on va savoir dimanche si Lyon est capable d'embêter le PSG ou pas.
Ils l'ont déjà embêté, le PSG, par le passé. Lyon, le passé, en tant que tel, l'a déjà embêté. Bien sûr.
Pas avec Rudy Garcia.
Non, mais tu parlais des gros matchs, je suis d'accord sur la Ligue 1, mais sur la Ligue des Champions, ce qui s'est passé face à la Juve, face à Manchester City, pour moi, ça peut te donner peut-être des garanties ou des repères pour justement aller titiller le PSG, où ils auront peut-être moins besoin de faire le jeu, de jouer un peu plus en compte comme ils l'ont fait. Ça peut peut-être leur convenir. Et le PSG, je suis d'accord, le PSG devrait être devant avec 5, 6, 7 points d'avance, mais c'est pas un grand PSG non plus. On l'a vu à Montpellier, il est obligé de faire tourner un peu, de se prémunir des blessures qui peuvent arriver. Donc pour moi, c'est assez ouvert, en fait, ce qui pourrait se passer dimanche.
Et avant ce match à Montpellier, Xavier, vous parliez des deux défaites du début de saison. Il y avait quand même...
Monaco,
le nul contre Bordeaux, qui était un petit peu limite, déjà.
Mais on sent, cette équipe du PSG, qu'elle est, en fait, son objectif prioritaire, et ça le reste d'ailleurs encore cette semaine, c'est la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors là, ils reçoivent Istanbul, Başakşehir au Parc des Princes, ça devrait être une formalité. Le plus dur a été fait à Manchester. Mais du coup, les matchs de championnat qu'ils intègrent, j'allais dire, entre ces rendez-vous de Ligue des Champions qui s'enchaînent, il faut les gérer. Donc de temps en temps, ils laissent des points. Mais le championnat, ils ont encore 20 journées pour le gagner, ou même un peu plus. Donc je serais tenté de dire, c'est pas une priorité pour eux. Alors que pour Lyon, et Habib Bey l'a très bien expliqué, ils sont pas européens. Ils sont pas européens, donc leur seul objectif cette année, c'est d'être performants en championnat. Donc qu'ils soient là où ils en sont, c'est le minimum.
C'est le minimum, et on va le dire quand même, ils sont en tête. On a l'impression, quand on en parle, qu'ils sont en difficulté, ils sont toujours en tête. Après leur victoire donc à Montpellier ce week-end 3-1, grâce à Kylian...
Le PSG,
bien sûr. Grâce à Kylian Mbappé, qui a marqué encore ce week-end.
Di Maria, le 1-2, Kurzawa, et le 7e but pour le génie français Kylian Mbappé. C'est pour ce jour de décembre 2020. Il aura bientôt 22 ans et il a marqué désormais 100 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.
C'est la barre mythique des 100. J'ai pensé depuis quelques matchs déjà. J'ai essayé de me concentrer sur le collectif, essayer d'aider mes partenaires au maximum. Et eux, ils me l'ont super bien rendu parce qu'ils m'ont offert ce but.
Kylian Mbappé avec notre confrère de Canal+, vous l'avez reconnu au commentaire, Stéphane Guy. Et oui, Kylian Mbappé, centenaire à 21 ans, 100 buts avec le PSG en 3 ans et demi. On est sur les temps de passage d'Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire de ce club. Il faut en plus rajouter les passes décisives, une cinquantaine, je crois. Bref, les statistiques de ce joueur sont hors normes. L'est-il lui-même toujours? Il y a des débats en ce moment. On dit qu'il plafonne, qu'il est pas assez décisif dans les matchs importants. C'est vrai qu'avec le PSG, par exemple, il a pas marqué lors des 5 finales qu'il a disputées. Habib, est-ce qu'on en demande trop à ce joueur, ou est-ce qu'on doit aussi en demander beaucoup?
Je pense qu'on n'en demande pas trop au vu du statut qu'il a aujourd'hui. Je pense que c'est prodigieux en termes de statistiques ce qu'il a réalisé. Il faut pas le négliger, même s'il est au Paris Saint-Germain, ça reste un jeune joueur qui est arrivé très vite, dont on a vu le potentiel très vite, on a vu que c'était un crack très vite, il est déjà champion du monde, il a fait une finale de Ligue des Champions. Après, la problématique qu'il a aujourd'hui pour lui, et c'est pour ça que la critique est quand même assez aiguë sur lui en ce moment, c'est que maintenant, il n'est jugé que sur la Ligue des Champions, comme le Paris Saint-Germain. C'est fini, on va arrêter de juger Kylian Mbappé contre Metz, contre Montpellier, c'est terminé. Qu'il marque 3 buts contre Montpellier, à la rigueur, on va en parler, et puis dans 2 jours, on a oublié. Par contre, quand il marque pas contre Leipzig, contre l'Atalanta, contre toutes les autres équipes, on en parle. Pourtant, contre l'Atalanta, c'est lui qui débloque la situation, il donne un ballon de but, il rentre, il change le match, mais on oublie ça, parce qu'on est en fait sur l'instant. Aujourd'hui, on est des gens, on a une tendance, je trouve que les bons ne le font pas, mais la plupart des gens qui parlent du football parlent de l'instant, c'est-à-dire qu'ils parlent du dimanche et puis on parlera du dimanche d'après et puis du dimanche d'après, sauf qu'il faut prendre de la perspective. Ce que fait ce jeune garçon à 21 ans, c'est hors norme au vu des statistiques. La problématique pour lui, c'est qu'il a mis la barre tellement haut qu'aujourd'hui la référence, ça sera Coupe du Monde, ça sera Championnat d'Europe et ça sera Ligue des Champions. Et c'est le cas pour toutes les grandes stars. Quand on a jugé Messi au début, on jugeait Messi au Barça, de ce qu'il faisait. Et puis à un moment donné, Messi est devenu Messi et puis on s'est dit, on attend qu'il marque en Ligue des Champions. On a même eu un débat sur Cristiano Ronaldo qui ne marquait pas en finale de Ligue des Champions et pourtant, il était champion d'Europe avec le Real. Et on disait, oui, il a marqué en quart, mais il marque pas en demi, il marque pas en finale. On a ces débats qui sont incessants, sauf qu'on oublie à un moment donné de prendre de la hauteur et de la perspective et de la distance. Qu'un jeune joueur comme Kylian Mbappé aujourd'hui a déjà mis 100 buts, c'est juste prodigieux. Maintenant, il sait que l'exigence, c'est la Ligue des Champions. Et quand en Ligue des Champions, il est un peu moins bien, il se fera critiquer comme la plupart des grands joueurs européens.
En Ligue des Champions, il est moins bien, pardon Xavier, notamment contre Manchester United, on l'a vu lors des deux confrontations de cette année, mais par le passé aussi. Est-ce qu'en Angleterre, vous qui suivez plus particulièrement ce pays, ce championnat, il est perçu, comme chez nous, Kylian Mbappé, comme le prodige actuel du football? Ou est-ce que ses performances en Ligue des Champions qu'on lui reproche comment dire, lui ne lui offre pas ce statut.
On n'est pas en Angleterre, on n'est pas encore dans le débat de décortiquer ses performances en Ligue des Champions. On le voit encore comme un phénomène, surtout un phénomène qui pourrait débarquer en Angleterre, parce qu'on parle de Liverpool depuis quelques mois. Mais on n'est pas encore dans le quotidien ou l'hebdomadaire de ce qu'il fait en championnat, en Ligue 1 et à chaque match, ce qu'il fait de bien, de pas bien. Après, moi, je suis d'accord avec toi, Habib. Il reste quelqu'un d'hors norme par ses stats. Mais j'ai peur que la Ligue 1 aujourd'hui, ça soit un leurre, en fait, dans sa progression. Il est dans une équipe tellement dominante avec le PSG que, quelque part, il s'appuie un peu trop sur ses stats. Et dans le jeu, et moi, je me souviens des déclarations qu'avait dit Michel Platini, qui était pas critique à l'époque, c'était il y a un an, où il disait qu'il faut qu'il joue un peu plus avec sa tête et qu'il repose moins son jeu sur sa vitesse. Et effectivement, depuis un an, je trouve qu'il progresse moins et qu'il joue encore sur sa vitesse. On l'a vu à Manchester, où dans les jets, dans les dribbles qu'il va tenter, il ne voit que la situation personnelle et pas suffisamment le collectif, pas suffisamment ce qu'on pouvait appeler de jouer dans le sens du jeu, de ce que demandait l'action à ce moment-là. Et là, effectivement, c'est peut-être le partir dans un autre championnat, plus difficile, plus dense, où il y a plus d'adversité, où lui va être obligé de s'adapter, de changer un peu son jeu, d'améliorer, de faire progresser son jeu.
Xavier, vous partagez ce constat, il doit partir Mbappé pour progresser?
Mais en tout cas, oui, pour avoir une adversité supérieure, parce que c'est vrai que pour le voir au Parc des Princes à tous les matchs du PSG, il se balade la plupart du temps.
Il s'amuse.
On a presque ce sentiment-là. Et contre, alors après, il y a un problème, c'est que effectivement, il marque beaucoup de buts. Hein, on en est à 100 sous les couleurs du PSG, dont 74, je crois, en championnat, rien qu'en Ligue 1. Donc, il a une facilité assez étonnante. Et on a le sentiment qu'il a cette volonté de progresser. Alors, c'est pas visible à tous les matchs, mais justement, en jouant plus collectif, notamment contre Bordeaux, on le voit de temps en temps, il s'improvise aussi meneur de jeu, il veut faire du Neymar parfois. Et alors, est-ce que c'est ça qu'il doit essayer de faire en Ligue 1 ou est-ce qu'il doit rester dans son registre où il est effectivement extrêmement efficace? Il est, je pense, parce qu'il a que 21 ans, mais il est déjà, bientôt 22 d'ailleurs, je crois, il est déjà un tournant de sa carrière. Est-ce qu'il va valoir qu'il continue simplement en faisant ce qu'il fait très bien, c'est-à-dire aller très vite vers le but et marquer, ou est-ce qu'il doit étoffer sa palette? Moi, je pense qu'effectivement, ça va passer un moment ou un autre par étoffer sa palette. Et pour le moment, j'ai pas le sentiment qu'en Ligue 1, il est, comme le disait Bruno, l'opposition qui le fasse progresser.
Messieurs, vous êtes quand même très dur. Il a 21 ans et il est champion du monde, titulaire, pas champion du monde. Non, attendez, messieurs. Il est champion du monde, pas remplaçant. Il est champion du monde titulaire dans une équipe où il a joué tous les matchs, où il a été décisif contre l'Argentine, décisif contre la Croatie. On pense qu'on se rend pas compte. En fait, il a fixé un tel niveau qu'aujourd'hui, on est en train de se dire, le mec, il a 27 ans. Et ça doit être du top. Rappelez-vous Messi à 21 ans. On compare Ronaldo à 21 ans.
Sauf que Messi joue à Barcelone et que Ronaldo joue à Manchester United. Et forcément, la marge de progression était plus compliquée parce qu'il jouait dans un championnat qui était compliqué, dans un grand club où il y avait l'exigence de la Ligue des Champions, du championnat.
Mais est-ce que Kylian Mbappé s'est pas révélé sur la scène européenne? Il s'est révélé avec Monaco sur la scène européenne, qui est le révélateur de tous les grands joueurs. Il s'est révélé malgré tout avec le Paris Saint-Germain parce que, encore une fois, on le juge sur la finale où il marque pas. Mais s'il rentre pas contre l'Atalanta, tu passes à la trappe. S'il est pas là contre l'Atalanta, tu passes.
Cette saison, Ligue des Champions, tu l'as trouvé bon?
Alors, je l'ai pas trouvé mauvais. Le problème, c'est qu'encore une fois, tu regardes les statistiques contre Manchester. Bon, il est contré, sa frappe, elle est contrée. Mais il est quand même au départ de l'action du but de Neymar. Alors oui, c'est une circonstance, peut-être, mais il est au départ de l'action. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on oublie que ce garçon n'a pas 27 ans. Et que si vous prenez tous les grands à son âge, ils n'étaient pas champions du monde. Messi n'est pas champion du monde.
Et
encore une fois,
Adil Rami est champion du monde.
Tu peux pas me dire qu'aujourd'hui Mbappé n'est pas un champion du monde sur le banc de touche. Mbappé est un champion du monde qui est décisif pour l'équipe de France.
On peut pas dire à chaque fois oui, il est champion du monde.
Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste qu'on a fixé le standard beaucoup trop haut pour exiger de lui. Non mais pour exiger de lui qu'à 21 ans. Il soit Neymar, par exemple.
Ouais, mais là,
c'est
on parlait de progression et de stagnation.
Mais allez jouer au golf. Vous mettez au golf et pendant 3 mois, vous allez progresser comme jamais. Et puis au bout d'un moment, la progression, elle est moins importante.
Mais est-ce que Habib, tu as le sentiment que depuis ce fameux titre de champion du monde il y a 2 ans et demi déjà, est-ce que Mbappé a vraiment progressé? C'est vrai que c'était un talent phénoménal, qu'il est toujours d'ailleurs, mais est capable de faire la différence, notamment lorsqu'il a de l'espace sur des ballons de contre. Et là, il est inégalable.
Mais est-ce qu'il a vraiment élargi sa palette, comme d'ailleurs il semble vouloir le faire quand on le voit sur le terrain, depuis ce titre de champion du monde? J'en suis pas convaincu.
Parlons-en quand il aura 24 ou 25 ans. Voilà. On verra si la palette n'a pas été élargie. Aujourd'hui, il en a 21. Tu sais très bien que la formation d'un joueur et l'évolution d'un joueur, elle peut pas se faire comme ça en un instant, sous prétexte qu'il est au Paris Saint-Germain. Sûrement que le championnat de France est trop faible pour lui aujourd'hui, et trop faible pour Neymar, et même trop faible pour le PSG. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est être dur. Quand j'entends aujourd'hui des gens qui disent ouais, Mbappé progresse plus, en fin de compte on s'est trompé sur, mais le mec, moi je trouve ça incroyable. Alors peut-être que dans 3 ou 4 ans on me dira, tu vois Habib, il a pas progressé, il en est toujours au même. OK, pas de problème.
Non, mais là, ça fait, mais en l'occurrence 2 ans quand même. Moi je dis pas qu'il est mauvais, hein. Je dis
non,
juste que
bon joueur,
il ne progresse plus, mais... et qu'à un moment donné, pour progresser, mais après c'est lui qui a mis les standards, c'est lui qui a fait qu'il est aujourd'hui en norme et qu'on effectivement on exige avec lui.
Moi je vous pose une question, il coûte combien aujourd'hui sur le marché des transferts?
Mais ça n'a rien à voir avec la progression.
Non, mais dites-moi, aujourd'hui, vous le mettez sur le marché des transferts, qui se positionne pour Kylian Mbappé?
On sait pas, parce que regarde.
Les clubs européens.
Ousmane Dembélé. Est-ce qu'Ousmane Dembélé vaut 120 millions d'euros?
Mais il joue pas. Mais tu compares des choses qui sont pas comparables, Xavier. Tu me compares quelque chose qui est pas comparable.
C'est un peu le même
joueur. Mais il y a un joueur qui a joué 10 matchs en 2 ans. Tu me parles d'un joueur qui joue tous les matchs et qui joue toutes les compétitions et qui est en finale de Ligue des Champions et qui est champion du monde. Mais en jouant, Ousmane Dembélé, il est champion du monde. Il a joué un match.
Mais les transferts, ouais, tu sais très bien que ça a rien à voir avec
vous.
Avec
comparez des choses qui sont pas comparables. Bon, comparez-moi des choses qui sont comparables.
Dans des registres un peu comparables, on voit qu'effectivement Mbappé est beaucoup plus performant que Ousmane Dembélé, donc il vaut un peu plus de 100 millions d'euros. Mais est-ce qu'il est plus fort que Rashford? Est-ce qu'il est plus fort que Hollande?
Vous êtes en train de me comparer Kylian Mbappé et Marcus Rashford. Si demain je vous donne 200 millions, vous achetez qui?
Eh ben justement, la question se pose.
Xavier, là tu fais de la démagogie. Tu sais très bien que tu prends pas un joueur qui a combien de sélections en équipe d'Angleterre?
Arrêtez.
Vous me comparez pas Rashford. Aujourd'hui, en talent intrinsèque, peut-être. Ne me comparez pas la carrière de Rashford et Kylian Mbappé. Il y a un monde entre les deux joueurs encore. C'est-à-dire pour qu'aujourd'hui.
Moi je pense pas.
Mais c'est quoi le palmarès? Quel est le palmarès de Rashford?
Mais la qualité du joueur, c'est pas le palmarès là, aujourd'hui.
Dites-moi quel est le palmarès de Rashford aujourd'hui à l'âge qu'il a.
Ryan Giggs a joué au Pays de Galles. C'était impossible pour lui de gagner la Coupe du Monde.
Là, on compare deux joueurs qui sont jeunes, qui ont plus ou moins le même potentiel.
C'est pas le palmarès qui fait la qualité du joueur.
Est-ce que c'est plus difficile d'être champion avec Manchester United?
Messieurs, donnez 200 millions à n'importe quel directeur sportif du monde et vous me dites qui l'achète. S'il achète Kylian Mbappé ou Marcus Rashford.
Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le point dans 6-8 mois. Il y aura eu l'Euro, il y aura eu la Ligue des Champions, il y aura eu progression ou stagnation de Kylian Mbappé. Voilà, on va refermer ce chapitre Kylian Mbappé, ce chapitre Ligue 1, le championnat en VF, en version française, pour passer à la VO, autrement dit à l'anglais, le championnat d'Angleterre, la Première Ligue. Ce week-end, ça donnait ça. Tottenham clear their lines and Kane sets Son away for the first time. Tottenham's most dangerous players. Son goes from distance. Oh my goodness me! What a fantastic goal by Heung-Min Son. Spurs lead the North London derby by a goal to nil. It's 4-2, literally here. Son, can Tottenham extend their lead at the end of the first half? It's Kane, and they do. Unbelievable finishing and attacking power. You've got to give them credit for that. Unbelievable, Harry Kane, Heung-Min Son, duo diabolique pour un Tottenham magnifique, vainqueur d'Arsenal 2-0, Tottenham leader de Première Ligue grâce à une meilleure différence de but par rapport à Liverpool. Bruno, c'est vrai que ça va vite, hein, le football, on avait l'impression que José Mourinho était devenu un entraîneur un peu has-been, hein, ça se disait, on peut le dire.
Clairement.
Aujourd'hui, il est en tête du championnat d'Angleterre et surtout... Il a trouvé la recette avec ses Spurs.
Il a trouvé effectivement la bonne formule. Il a su, sur sa première saison, il est arrivé en cours de saison l'année dernière, à soigner un peu les têtes, à essayer de vendre un peu à ses nouveaux joueurs la manière dont il allait faire jouer cette équipe, qui, sous Mauricio Pochettino, était une équipe flamboyante, très offensive, très agressive, qui jouait très haut sur le terrain, mais qui ne gagnait pas de trophée. Et Mourinho leur a mis dans la tête que c'est bien gentil d'être des gentils garçons, mais l'histoire dit que ceux qui gagnent des trophées, c'est pas forcément les gentils, c'est même plutôt les méchants. Et qu'il va falloir être un peu plus cynique, un peu plus défensif. Et c'est ce qu'il fait de cette équipe de Tottenham. Hier, ils se sont imposés face à Arsenal à domicile, avec une possession de 31%. Sous Pochettino, il y aurait eu des sifflets dans le stade pour ça, parce que ça plaît pas. Mais c'est la recette de Pochettino. Elle a marché ailleurs. Elle a marché à Chelsea sur son deuxième passage. Elle a marché avec
Mourinho.
Oui. Elle a marché avec l'Inter Milan. Cette même approche très défensive, parfois négative, parfois restrictive. Mais c'est peut-être ce dont a besoin Tottenham. Et qui peut en plus avoir un jeu sublimé avec deux talents offensifs qui sont Harry Kane et Wilson.
C'est ça, un jeu cynique mais des joueurs talentueux et des buts magnifiques hier. Je suppose que vous avez pris du plaisir en regardant ce match, Xavier Habib.
Oui, vas-y Xavier.
Moi pas vraiment, puisque effectivement je n'aime pas du tout ce jeu-là. Maintenant je reconnais ce qu'expliquait Bruno, c'est que en fait le discours qu'a eu Mourinho avec les Spurs, c'est celui qu'il avait eu avec Chelsea il y a 15 ans. Il est arrivé dans le vestiaire, Gallas le raconte très bien, il nous a dit « qu'est-ce que vous avez gagné là, ici ?» Ils n'avaient rien gagné. Et c'est le cas de Tottenham qui n'a plus été champion d'Angleterre depuis 1961. Donc forcément, lui, quand il arrive en disant « je vais vous faire gagner », les gars, ils sont prêts à tout, même à jouer un peu contre nature. En tout cas, pas de la façon dont le préconisait Pochettino. Donc du plaisir, non, parce que cette équipe de Tottenham qui jouait bien au football, maintenant elle joue un football très différent, qui l'a fait gagner. Donc c'est un choix qui a été fait, probablement assumé par les dirigeants. Moi, je ne me régale pas de ce football-là. Maintenant, faut reconnaître que ça fonctionne. Il a mis en avant ce duo Kane-Son qui marchait déjà, mais qui marche encore mieux, puisque je crois que c'est maintenant le deuxième duo qui a marqué le plus de buts dans l'histoire de la Première Ligue, hein, avec
32 buts entre deux.
Derrière Drogba-Lampard. Donc c'est vrai que ce duo donne du réalisme, de l'efficacité à une équipe qui aujourd'hui et surtout une équipe qui défend, qui court, qui
compte. Bat,
et qui contre, exactement.
Des phases de contre magnifiques, ça vous a plu ?
C'est exceptionnel, moi j'adore. Ouais. Personnellement, après en même temps, je suis un défenseur, donc ça me plaît. et forcément, c'est lié, c'est subjectif.
Toi, l'amour tu te du serais jeu. Régalé, défenseur.
Ben, exactement, non mais exactement. Mais en fait, c'est le beau jeu, c'est tout relatif. C'est-à-dire, il n'y a aucune définition du beau jeu. C'est lié à nos sensibilités footballistiques. Moi, ça me plaît, pourquoi ? Parce que je trouve qu'il a optimisé cet effectif, déjà par le recrutement. Reguilón, Højbjerg, qui ont amené une plus-value incroyable à cette équipe dans le système dans lequel ils jouent. C'est vrai que ce duo est fantastique dans la coordination, il se trouve les yeux fermés. Harry Kane décroche beaucoup plus, il l'utilise presque comme un milieu de terrain. C'est lui qui vient chercher les ballons entre les lignes et qui justement trouve soit Lo Celso, soit Bergwijn, qui sont des joueurs de profondeur pour Bergwijn. Et puis Heung-Min qui est un joueur fantastique, pas assez reconnu sûrement, mais c'est normal puisqu'il est coréen et puis forcément il a moins de.
En Corée, c'est une superstar.
Non, mais voilà, mais il a moins de rayonnance avec sa sélection. Après. Encore une fois, je trouve fantastique ce qu'il fait sur le plan tactique. C'est encore une fois la capacité à faire déjouer les adversaires. Ça a été du Mourinho dans le texte depuis qu'il est entraîneur. Je pense qu'il s'est formé comme ça. Lorsqu'il a commencé au Barça, il observait les adversaires. Donc je crois qu'il s'est mis un petit peu en empathie avec l'entraîneur adverse. Il arrive à déceler les idées de l'entraîneur adverse. Et en fin de compte, il met un système en place pour déjouer ce que veut mettre Guardiola, ce que veut mettre Lampard en place. Il le fait très très bien. Et par contre, ce qui est assez incroyable, et je reviens à ce que tu dis, c'est qu'en moyenne 35% de possession de balle, c'est 65% de passes réussies. Ça veut dire énormément de déchets dans le jeu de Tottenham. C'est assumé. Encore une fois, c'est pas du football spectacle. Moi, ça me plaît parce que c'est un football de transition où justement on défend très très bien. Et je trouve que il a une superbe recrue cette année qui n'est pas une recrue, mais c'est Lloris. Parce que Lloris, lorsqu'il est blessé l'année dernière, ça porte énormément préjudice aujourd'hui à son équipe. Et ce qu'il se dit, c'est qu'il a Alderweireld d'ailleurs. Il les met devant les 16m50. Vous bougez pas d'ici, on n'a pas de profondeur et on a un gardien qui est un très très bon gardien. Donc il concède beaucoup d'occasions, beaucoup de situations, mais il s'en sort très très bien. Meilleure défense, deuxième meilleure attaque de Première Ligue. Bon, on a retrouvé Mourinho avec le mojo qu'il pouvait avoir à Chelsea, à l'Inter. Ça plaît pas à tout le monde, mais moi ça me plaît personnellement.
Il y a un Tottenham-Liverpool qui va valoir son pesant de cacahuètes. C'est le 16 décembre, ouais. C'est ça. Ouais. On note sur l'agenda. On parlait de la recette magique de Mourinho rapidement. Bruno, il y en a une autre qui tombe un petit peu au vinaigre. Hein. C'est celle d'Arteta avec Arsenal. On pensait, ça y est, arriver à la saison du renouveau, l'énième saison du renouveau d'Arsenal. Résultat. 15e du classement ce matin.
Mais oui, c'est bizarre. Hein. Ce qui se passe, c'est même incompréhensible parce qu'on l'a tous pensé. Quand on a en mémoire la fin de saison dernière, lors du restart et même le tout début de saison, le Community Shield, le match à Fulham, on commençait à parler de l'Arteta Ball, cette équipe qui partait du gardien et en 7, 8, 9 passes arrivait au but adverse et marquait. Et là, il y a quelque chose qui s'est éteint. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Je ne sais pas si c'est les joueurs qui n'adhèrent plus à la méthode Arteta, qui est très rigide, un peu sur le même modèle que Guardiola. Et il y a des joueurs qui sont en train de déjouer totalement. Je pense à Aubameyang, qui était son meilleur buteur la saison passée. depuis qu'il a signé son nouveau contrat à Arsenal, c'est bizarre, il y a une coïncidence, il a marqué deux buts lors des deux premières journées, il a signé son nouveau contrat et depuis ce moment-là, il est mais que l'ombre de lui-même. Il a le moral dans les chaussettes, il ne retrouve plus son éclat. Parfois il est baladé, parfois dans l'axe, parfois sur le côté gauche. Mais voilà, il n'est pas non plus soutenu par une équipe d'Arsenal qui est loin d'être flamboyante. Et là, ça devient inquiétant. Ils sont quand même 15e, quoi. C'est terrible. On a l'impression que ce club s'enfonce de plus en plus, année après année, dans les profondeurs du classement.
Moi, à mon avis, son erreur, c'est de s'être enfermé dans la copie de Guardiola.
Je pense aussi.
Je pense qu'il faut avoir son propre... sa propre philosophie. Vous pouvez être influencé par des entraîneurs, mais il faut les incarner. Vos idées, il faut les incarner. Je pense qu'aujourd'hui, il a considéré que le football qu'il avait appris avec Pep Guardiola et le football qui est son ADN, le football espagnol, était transmissible à n'importe quelle équipe. Sauf que le talent qu'a Guardiola à sa disposition, je pense qu'il ne l'a pas à Arsenal. La réalité, c'est que on peut tout dire, mais le profil des joueurs qu'il a à sa disposition, ce n'est pas le profil des joueurs que Guardiola a à Manchester City. Et on voit bien également que le football de Guardiola en ce moment, dans le football d'aujourd'hui, est un football qui devient plus difficile. Le football de possession, on est plus sur un football de transition. Et bizarrement, il a les joueurs pour jouer un football de transition, c'est-à-dire un football très rapide vers l'avant. Et ils l'ont fait une fois cette année, où moi je les ai commentés, c'est contre Manchester United, où ils sont allés les presser très très haut en première période. C'est pour moi la première mi-temps d'Arsenal qu'on doit voir, d'Arsenal dans tout ce championnat. Et bizarrement, il a voulu solidifier cet aspect défensif parce qu'ils avaient des problèmes. Il en a perdu tout son influx offensif. Et moi, je pense, et tu l'as dit, ces joueurs ont perdu cette forme de reconnaissance en un entraîneur en qui ils croyaient. Parce que, comment il s'appelle, Aubameyang a dit après le Community Shield, ça se passe super bien, je me sens bien avec lui, ils ont gagné ce trophée, donc il y avait une forme de confiance. Là, c'est ce que disait Arsène Wenger, il s'est toujours appliqué à ne pas perdre plus de deux fois de suite parce que c'est là où la confiance s'ébranle. Et je pense que la confiance est ébranlée envers Arteta et surtout envers le club.
Il y a un ancien joueur d'Arsenal qui en ce moment va bien, il fait chanter les blues de Chelsea, c'est Olivier Giroud. 5 buts en une semaine, quadruplé en Ligue des Champions, le but face à Leeds samedi dernier. Alors Olivier Giroud, on l'annonçait partant, il y avait même eu ce petit coup de pression de Didier Deschamps qui lui avait dit « Bon, grosso modo, si tu veux jouer l'Euro cet été, il va falloir que tu trouves un club qui te donne du temps de jeu ». Il se trouve que là, il devient de moins en moins, de plus en plus incontournable pour Frank Lampard. La question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que sur cette dynamique, en surfant là-dessus, il peut aller voir Frank Lampard et lui dire « Écoute, je suis d'accord pour rester, si je continue à jouer aussi régulièrement ». Est-ce qu'on peut avoir ce type de négociation avec un entraîneur, Habib, et est-ce que surtout c'est le moment pour lui de le faire? Est-ce qu'il a intérêt à le faire?
Moi, je pense qu'il n'a aucun intérêt à quitter Chelsea pour deux raisons. C'est qu'il va jouer quoi qu'il arrive. Tammy Abraham est dans l'impossibilité de faire 10 matchs enchaînés, il se blesse tout le temps. Werner, aujourd'hui, pour Lampard, il a été mis côté gauche et c'est là où il est le plus influent. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait un attaquant qui puisse tenir, en quelque sorte, le rythme, comme peut le faire Olivier Giroud, être aussi fit qu'est Olivier Giroud dans une saison à jamais se blesser. Et rappelez-vous l'année dernière, il le récupère pour le restart, il marque contre Tottenham, il le garde, et c'est plus ou moins lui, pour moi, qui met Chelsea en Ligue des Champions cette saison, avec ses performances. Et je crois que Olivier Giroud n'a aucun intérêt à partir de Chelsea. Il est bien, il vient d'avoir un enfant, il vit à Londres, il sait qu'il va jouer parce qu'il n'y a pas une concurrence où il peut se dire « c'est mort ». C'est-à-dire l'attaquant qui est là, je vais jamais le déloger. Tammy Abraham est en l'incapacité d'enchaîner 3 matchs. Il fait 3 matchs, il se blesse. Donc il aura des opportunités. Et ce qui me plaît chez Giroud, moi c'est son talent. Parce que les gens voient le talent, je le disais hier, en passement de jambes, petit pont. Pour moi, il a un talent de buteur, inné. C'est-à-dire qu'il joue, il marque. Alors il marque pas 50 buts par saison, mais il marque. Et il marquera dans toutes les équipes où il va jouer. Et je peux garantir que Frank Lampard va s'appuyer sur lui parce que déjà, c'est un profil qu'il n'a pas dans son équipe et qui modifie en quelque sorte le projet de jeu de Chelsea lorsqu'ils sont sur un bloc bas, comme ils l'ont été parfois, c'est-à-dire quand ils sont sur un bloc haut, pardon, face à un bloc bas. Giroud amène cette présence. Et moi, je pense qu'Olivier Giroud doit rester à Chelsea. Il va jouer et il fera la Coupe du Monde.
Bruno, en 30 secondes, Lampard va garder Giroud. Giroud va rester à Chelsea cet hiver. C'est la tendance du moment.
Moi, je trouve qu'on a été incroyablement impatient avec Giroud, en fait, sur le début de saison, parce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour moi. C'était évident qu'il allait jouer. C'est évident qu'Abraham n'a pas la stature pour enchaîner tous les matchs. Et puis, il y a une raison qui est simple. Chelsea, il va pas lâcher, Lampard va pas lâcher Olivier Giroud, tout simplement parce qu'il faut le remplacer. C'est exactement le même problème qui s'est posé l'année dernière. Il ne l'a pas laissé partir en janvier, malgré les offres, parce qu'il n'avait pas de remplaçant. Mmh. Et quand on voit ce que fait Giroud, il a 7 buts en 11 apparitions cette saison. Mais pourquoi on lâcherait un joueur comme ça? C'est une aubaine, quoi. C'est un joueur en or. En plus, il se plaint jamais, il joue, il se bat. Et puis voilà. Et puis je pense qu'Abraham, surtout, a plus à apprendre de Giroud que de se plaindre de laisser sa place à un joueur comme ça. Et là, en l'occurrence, voilà, un joueur champion du monde. On en parlait avec Habib. C'est quelqu'un qui amène de l'expérience aussi à cet effectif. Et c'est précieux dans cette course qui s'annonce où Chelsea est en train de peut-être penser secrètement au titre.
Et City, un peu loin du titre, mais City revient. City a battu, a gagné 2-0 contre Fulham samedi. City à la 6e place, à 6 points de Tottenham, mais avec un match en moins. Et c'était un anniversaire. Je ne sais pas si vous le saviez, Bruno, cette rencontre pour Pep Guardiola. 700e match.
700e ou 750e?
700e match dirigé sur le banc de touche et c'est pas prêt de s'arrêter. Écoutez.
Je vais en faire 700 de plus et je prendrai ma retraite ensuite. Non, quand on commence quelque chose dans la vie, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Je ne m'y attendais pas, mais c'est bien d'avoir ces 700 matchs et seulement quelques défaites pour tous les joueurs et membres des différents staffs. Entre l'équipe réserve du Barça, l'équipe première, le Bayern et enfin Manchester City, c'est un beau parcours. On a fait des choses incroyables avec un grand nombre de personnes. On espère pouvoir continuer ainsi.
Voilà, 700 matchs dirigés. On s'est dit à Radio Foot que ça mériterait bien un petit quiz. Vous êtes prêts tous les trois, ça vous dit?
Allez.
Allez. Première question, messieurs, je vous demande de trouver un club. Avec laquelle de ces équipes Pep Guardiola a-t-il remporté le plus de victoires?
Barcelone.
Non, le Bayern.
Zéro pointé pour tout le monde. C'était City depuis ce week-end. Ouais. 184. 184, 183 avec le Barça. Donc il a battu dans le même temps son record personnel. Deuxième question. Un pourcentage de victoire de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City, le plus proche de vous. 3 remporte cette manche.
61,7.
61 Habib, je note.
63.
63 Bruno.
68.
68 Xavier. Bonne réponse. En tout cas, vous êtes le plus près, Xavier. Ça fait 73,6. Xavier Barré vire en tête avant la troisième et dernière question. Ah. Attention. Avec presque 600 matchs dirigés en Ligue 1, je suis le Pep Guardiola français, l'entraîneur en activité le plus capé du championnat de France. Qui suis-je?
Claude Stéphane Puel. Moulin.
Claude Puel.
Claude Puel.
Ouais.
Bonne réponse, Xavier Barré.
Bon, le Guardiola de la Ligue 1.
Voilà. Il y avait une réponse bonus en cas d'égalité. Xavier, vous avez gagné. Hein, c'est pour le plaisir. Il y avait une question bonus plutôt en cas d'égalité. On va quand même la faire. Voilà, pour le plaisir.
Pour la deuxième place.
Le nombre de matchs dirigés par Sir Alex Ferguson, toute équipe confondue.
Toute équipe confondue. Ben Wenger était à plus de 1000.
Ouais,
donc 1400, 1250, un truc comme ça. Et
le point encore pour Xavier Barré, vous êtes incontestablement le vainqueur. Alors, Xavier, c'était 2153.
Ah oui,
par contre, vous étiez vraiment loin.
Ouais, désolé. Franchement, le point, ouais. Non, partout. Le non. Point, on lui donne, mais bon.
Ouais. Ouais, voilà, il
c'est
gagné.
Un point par défaut. Ouais.
Bravo, Xavier, vous gagnez ce quiz et toute notre estime.
Bravo, Xavier.
Premier numéro, le 36. Le 3. Le 12. Allez, on va parler d'un événement qui va commencer dans une grosse dizaine de minutes maintenant. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, zone Europe. Tirage en visio, hein, Covid oblige, et un mode opératoire comme souvent un petit peu... C'est un petit peu compliqué à décrypter. 6 chapeaux pour arriver à 10 groupes, 5 groupes de 6, 5 groupes de 5. Et à la fin de ces éliminatoires, il y aura 13 tickets à distribuer. Voilà, on a un spécialiste tirage au sort en la personne de Xavier Barré. Est-ce que j'ai bien résumé? Est-ce qu'il y a des précisions à apporter, Xavier?
Oui, il y a deux précisions importantes. La première, c'est qu'il y aura des tours de barrage pour les vainqueurs de la Ligue des Nations qui s'est déroulée cet automne et pour lequel la France est qualifiée pour le Final Four. Comme il y avait des tours de rattrapage pour l'Euro 2020, pour les équipes, pareil, qui étaient sorties en tête de leur groupe de la Ligue des Nations. Donc bon, ça, on va le laisser de côté parce qu'on aura le temps d'en reparler. Mais ce qui est très intéressant pour le tirage immédiatement, c'est que vous parlez des groupes de 5 et des groupes de 6. Et donc la France sera dans un groupe de 5 comme les 4 autres équipes qui ont remporté leur groupe de Ligue des Nations et qui sont donc qualifiées pour le Final Four. Donc la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Et il y aura un cinquième qui sera aussi. Donc ce sont des équipes qui auront donc des groupes éliminatoires allégés. Alors tout est relatif parce qu'en fait, c'est pour l'UEFA a mis ça en place pour dégager les dates éliminatoires d'octobre 2021 de façon à organiser la Ligue des Nations. Et aux mêmes dates, eh bien, il y aura les autres pays européens qui, eux, joueront. Par contre, les autres pays européens qui sont dans des groupes de 6, qui, eux, joueront. Par contre,
ah, rien compris.
Ah, j'ai essayé de faire simple.
Non, non, mais c'était très simple. Mais...
Non, mais si on récapitule, les 10 premiers, de toute façon, sont directement qualifiés pour la Coupe du Monde. Ça, il n'y a pas de problème. 10 premiers de groupe.
Ensuite, il y a des barrages.
Mais ensuite, ça, on prend des barrages. On prend donc les deux équipes éventuellement de Ligue des Nations. Ouais, si jamais elles sont pas qualifiées, c'est ça.
Oui, on y reviendra parce que c'est tellement alambiqué. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la France est dans un groupe de 5, hein, donc comme l'Espagne, l'Italie. Et donc la Belgique.
Et en plus, c'est un joker, si j'ai bien compris.
Voilà, et donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour la qualification à la Coupe du Monde 2022.
Donc la France, dans un groupe de 5, avec en plus un joker, et quand vous regardez, franchement, les équipes des pots 2 et pots 3... C'est pas le top niveau européen, quoi.
Après, si vous tombez dans un groupe avec, par exemple, la Turquie et la Russie, effectivement, c'est pas le top niveau, mais c'est compliqué parce que ce sont des équipes qui ont quand même, c'est des voyages longs. On sait que Didier Deschamps appréhende particulièrement ses déplacements à l'autre bout du continent. Parfois, les Turcs vous font des surprises. Ils vous font pas jouer à Istanbul, ils vont vous faire jouer à Bursa ou ailleurs. Donc c'est toujours délicat de tomber dans des groupes en fait où il y a un match à trois. Donc il vaut presque mieux parfois tomber dans un groupe. Enfin ça, Habib ayant vécu ces phases éliminatoires peut-être en parler mieux que moi, mais où il y a un adversaire identifié avec un espèce de finale pour la première place, qui sera donc forcément l'équipe du pot 2, puisque la France est tête de série, et tomber contre des 3e et 4e qui sont moins relevés.
La France, là, évidemment, je fais le raisonnement par l'inverse, hein, mais la France, si on prend un cheminement très simple, pourrait se retrouver, grosso modo, avec la Roumanie, la Hongrie... l'Israël, le Bélarus ou les îles Féroé. Est-ce que franchement se préparer pour une Coupe du Monde en jouant des matchs faciles, entre guillemets, vous allez me dire qu'aucun match n'est facile, bien sûr, c'est une bonne préparation?
Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne préparation par rapport à l'adversaire. Vous pouvez avoir un gros et gagner contre le gros et passer à travers votre Coupe du Monde. Ça arrivait pour l'Allemagne, par exemple, qui est passé à travers sa Coupe du Monde. Je suis pas sûr qu'il y ait un parcours parfait ou des équipes parfaites. De toute façon, c'est donner du temps de jeu, faire des revues d'effectifs, essayer d'analyser des jeunes joueurs qui arrivent dans cette équipe de France. Il y en a très très peu parce que il y a très peu d'ouverture pour les joueurs qui pointent le bout de leur nez maintenant. Moi, je pense que quand on est l'équipe de France dans le pot 1, de toute façon, on se dit que quoi qu'il arrive, peu importe le tirage, vous devez sortir. C'est un petit peu le débat qu'on avait sur Lyon. Vu le niveau de l'équipe de France, pour moi, il n'y a aucune inquiétude à avoir, peu importe qui est dans le pot 2, 3, 4 ou 5. C'est juste bien négocier ce moment-là, savoir comment ils vont récupérer les joueurs aussi avec toute cette situation, parce qu'il faut gérer, on l'a dit, les calendriers, c'est assez lourd pour tout le monde. Donc moi, je suis plus focalisé sur le calendrier et les matchs qu'il peut y avoir pour cette équipe de France que sur l'adversité en tout.
Le problème de la compétitivité, c'est pas forcément un problème pour vous.
La compétitivité, elle dépend surtout de l'investissement des joueurs sur ces matchs qui parfois font moins rêver, avec des petites nations. Et c'est le degré d'implication des joueurs qui va rendre déjà les matchs faciles. Après, là, on est dans un contexte un peu particulier parce qu'on va sortir de l'Euro et on va enchaîner directement un an après avec la Coupe du Monde. Donc c'est très resserré. Et pour moi, presque la performance.
Et la Ligue des Nations.
Et la Ligue des Nations. Mais ça veut dire que l'Euro 2021 plus la Ligue des Nations, ou le niveau quand même très relevé, l'Italie, la Belgique, va être pour moi des temps de passage plus intéressants en vue de la Coupe du Monde que ce groupe de qualification où on voit bien que, voilà, c'est quand même. Il y a des grands favoris. Et des petites nations. Après, si vous jouez la Suède en pot 2 et que vous allez vous déplacer en Écosse, qui est en pleine renaissance, bah, ça va être un peu plus compliqué.
Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'Euro sera un vrai baromètre pour la Coupe du Monde. On l'avait vu sur l'Euro 2016, le fait que l'équipe de France perde en finale Didier Deschamps avait dit on veut plus jamais revivre ça, et je pense que c'est ce qui permet à l'équipe de France d'être championne du monde. Et en l'occurrence, on avait vu l'Allemagne en grande difficulté face à l'équipe de France en 2016, et ce qui prédisait en quelque sorte un échec en 2018. Alors c'était pas forcément écrit, mais c'est souvent quand même les prémices de ce qui peut se passer un ou deux ans après en termes de maturité, ou pour des équipes qui sont en fin de cycle, c'était un petit peu le cas de l'Allemagne en 2016.
C'est et là où se dégagent des certitudes,
voilà,
en fait,
exactement,
à travers les grands
exactement.
Tournois.
Après, on voit ces phases éliminatoires. On l'a vu pour l'Euro récemment. L'équipe de France qui devait voyager en Moldavie, qui devait voyager en Bulgarie, ils ont avec des matchs vraiment médiocres, hein, qu'ils ont réussi à gagner. Donc, et souvent la conclusion de Deschamps ou des Bleus lorsqu'ils étaient interviewés après ces prestations, c'était l'important, c'était comme on caricature parfois, c'était les trois points, c'était de gagner ces matchs. On sait que la Ligue des Nations en plus a apporté un nouvel air à ces rencontres internationales parce que effectivement il y a quatre divisions au niveau de l'Europe. Quand on est dans la première division, ce qui est le cas de la France, ce qui est le cas aussi de l'Angleterre, de la Belgique, eh bien on se rencontre contre grandes équipes. Donc on a vraiment des grands matchs. Là, le problème, c'est que dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, comme ceux de l'Euro, eh ben, il faut aller jouer en Moldavie, il faut aller jouer à Chypre, aux îles Féroé. Donc, c'est vrai que c'est sympa pour les reportages, pour présenter les adversaires, mais je crois que les joueurs, eux, ils prennent pas tellement goût. Hein. Encore une fois, on dit les contraintes des déplacements qui sont longs dans des régions où parfois les conditions d'hébergement sont pas top. Et puis tout ça s'intègre en plus dans un calendrier très chargé où dès qu'on revient, eh bien, on enchaîne avec les championnats, la Ligue des Champions, etc. Donc c'est finalement devenu une épreuve, un espèce de marathon, ces éliminatoires. Et on sait qu'il y a certaines personnes qui souhaiteraient leur suppression et carrément leur remplacement par la Ligue des Nations.
Mais à la fois, ça peut être paradoxalement assez intéressant. J'imagine de jouer des équipes un peu plus faibles parce qu'en Coupe du Monde, en poule, vous pouvez vous retrouver face à des oppositions qui vont jouer très regroupées parce qu'elles se savent inférieures, c'est une sorte de préparation.
Moi, je trouve que c'est bien pour deux aspects. C'est que déjà, ça vous fait redescendre sur terre. On l'a vu avec l'équipe de France, avec la Finlande. Il y a eu la Finlande, le petit accident qui a remis tout le monde un petit peu. Hein ?
C'était un match.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, ça a remis en quelque sorte le curseur au niveau où Deschamps le voulait. Et derrière, la performance contre le Portugal, elle est aboutie parce que les mecs se disent on n'en a pas fait assez, on n'était pas assez motivés. Alors c'est normal, c'est un match amical, mais les fondamentaux n'étaient pas là. Et ils savent très très bien que l'équilibre est précaire en football. La réussite, elle se tient en très peu de choses. Et je pense que Deschamps appuie là-dessus. Donc c'est bien parfois d'aller visiter certaines équipes qui sont pas forcément clinquantes et flamboyantes. Et de pouvoir maîtriser les matchs, même si, comme tu le dis, l'important, c'est de le gagner, peu importe le contenu.
Alors après, moi, je me souviens, lors des éliminatoires, c'était de l'Euro 2016, pour laquelle la France était qualifiée. Mm-hmm. Mais elle avait quand même, souvenez-vous, c'est une nouveauté de l'UEFA. La FIFA fait la même chose depuis quelques années aussi, pour que le champion d'Europe ou le champion du monde en titre, et c'est pareil aussi pour la CAN maintenant, hein, puisque le champion d'Afrique également, participe à des éliminatoires pour avoir des matchs de compétition. Sinon, ils étaient obligés d'aller chercher des adversaires sur les autres continents, parce que tous leurs adversaires de la Confédération étaient engagés dans des éliminatoires sans eux. Donc du coup, lorsque l'équipe de France était engagée dans l'Euro 2016, Deschamps avait dit notre objectif, bien sûr qu'on est qualifié, mais ce qu'on veut, c'est finir dans les équipes qualifiées. Et donc la France était, je crois, avec le Portugal et le Danemark, si je me souviens bien, et aussi l'Albanie. Ils avaient d'ailleurs, je crois, perdu en Albanie. Donc il y a toujours cette perspective de rencontrer les petits en phase finale, que ce soit à l'Euro ou plus sûrement à la Coupe du Monde. Eh bien, vous l'avez effectivement dans ces phases éliminatoires régulièrement.
Et puis c'est dur. Hein. Rappelez-vous l'Euro et rappelez-vous la Coupe du Monde. Vous avez eu du mal contre l'Australie, vous avez eu du mal contre la Roumanie à l'Euro 2016 où Payet met ce fameux but magnifique, je crois que c'est ça. C'est pas simple de jouer les petites équipes parce que, comme vous le dites, elles sont recroquevillées, il faut trouver les solutions. Et parfois, sur des équipes qui sont sur des équipes de possession, comme l'équipe de France face aux petites équipes, hein, je le dis encore une fois, c'est pas simple de trouver les solutions. Et peut-être que ça vous aide à appréhender ces matchs qui sont un petit peu moins glamour.
Ben, on va suivre ça dans quelques minutes, puisque officiellement, ce tirage commence à 18h heure française, 17h temps universel. On va regarder ça ensemble, si vous voulez bien, messieurs.
Ouais, bien sûr, on va suivre ça
avec intérêt. Je vous souhaite en tout cas une bonne après-midi à tous, une bonne fin de journée, et à la prochaine pour un nouveau numéro de Radio Foot International. Bye bye.